Réplique, philosophie des droits de l'homme avec Gregor Pupink et Frédéric Worms. Certains s'en souviennent peut-être. Jusque dans les années 70 du XXe siècle, le droit était considéré par les penseurs politiques les plus en vue comme une superstructure idéologique, pure mystification, destinée à protéger et à occulter, par la fiction d'une loi supposée égale pour tous, la réalité de l'exploitation et celle de la domination. Les choses ont changé sous l'effet de la dissidence dans les pays totalitaires. Il s'est produit, comme l'a noté Alain Renaud, un extraordinaire retour du droit. Et cette réévaluation a pris la forme d'une référence retrouvée aux droits de l'homme. Référence qui reste plus que jamais de mise. Les droits de l'homme font l'unanimité aujourd'hui. Ils n'ont plus d'ennemis déclarés. Mais la conflictualité n'a pas disparu pour autant. Plusieurs conceptions des droits de l'homme se font jour et s'affrontent. Si tout le monde parle en effet le même langage, ce langage recouvre des pensées et des politiques antagonistes. Pour y voir plus clair dans ce dissensus paradoxal, j'ai invité Frédéric Worms à débattre avec Gregor Pupink. Membre du Comité consultatif national d'éthique, le philosophe Frédéric Worms est l'auteur notamment des maladies chroniques de la démocratie et d'une anthologie parue sous le titre « Droits de l'homme et philosophie ». Gregor Pupink, qui dirige le Centre européen pour le droit et la justice à Strasbourg, publie « Les droits de l'homme dénaturés ». À la dérive ou à l'emballement actuel, ce livre oppose la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Pouvez-vous nous dire, Gregor Pupink, dans quelles conditions a été promulguée cette déclaration et quelle en est la philosophie ?
Effectivement, la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle que nous la connaissons tous et la célébrons d'ailleurs ces jours-ci, pour son 70e anniversaire, a été voulue, elle a été pensée pendant la Seconde Guerre mondiale et elle a été énoncée juste après la Seconde Guerre mondiale. Elle est un effort considérable de l'humanité pour sortir de l'impasse d'une conception absolue de l'État, formée en particulier par l'idée de la souveraineté et l'idée du positivisme, du droit positif. On a vu dans les années 30, et encore pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les régimes totalitaires, que des régimes pouvaient agir dans toute légalité et conduire aux plus grandes atrocités. Donc le droit a montré ses limites. On a fait l'expérience du fait que le droit peut être injuste, peut être immoral, peut être source de violence, tout en étant légal. Et nous étions, d'une certaine manière, à court d'éléments pour répondre à cette situation. Tout l'effort de 1948 a été, dans le prolongement déjà d'efforts antérieurs pendant l'entre-deux-guerres, de briser, de sortir, d'échapper de cet enfermement de la souveraineté nationale et aussi de la dimension du positivisme qui veut que la vérité, la justice, soit le droit posé par le législateur, sortir de cet enfermement de la souveraineté, du positivisme, en réaffirmant d'une part la primauté de la morale, on peut dire, du bien, du juste, sur le droit positif, et en réaffirmant la primauté de la personne sur l'État. Donc un double mouvement de libération, on sort du droit positif, ce n'est pas le législateur qui détermine le juste et le bien, et on échappe à l'idée que l'État couvrirait totalement les personnes dépassent l'État. Et donc c'est cette volonté de fonder un ordre qui à l'époque a été qualifié de moral et d'universel, mondial, à la place de la coexistence d'une multitude de souverainetés que très clairement on a voulu à l'époque détruire autant que possible, limiter, mais sinon, effectivement, parfois on disait qu'il fallait les détruire. Maritain disait qu'il faut détruire la souveraineté parce qu'avec l'absolutisme, elles ont été forgées ensemble, donc, et qu'il fallait s'opposer à l'un et à l'autre.
Et la Déclaration universelle, elle a été votée par l'ONU, c'est ça?
Alors, la Déclaration universelle était adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 48.
En 48.
Oui. Et elle fait suite donc à la charte de San Francisco qui a fondé les Nations Unies.
En effet, en 1933, à la Société des Nations, confrontée aux premières protestations contre les violations des droits de l'homme, Goebbels a pu dire, en toute impunité, en toute tranquillité, charbonnier et maître chez soi. René Cassin, notamment, a été traumatisé par cette déclaration, oui. et c'est ce qui est au fondement, comme vous l'avez dit, oui. de cette déclaration universelle des droits de l'homme. Mais justement, la conception actuelle des droits de l'homme est-elle fidèle à l'inspiration de cette déclaration universelle, Grégoire Pupping?
Oui, elle est fidèle dans une large mesure, puisque nous souhaitons toujours, que ce soit à Genève, au sein des Nations Unies, ou alors dans les organisations régionales, comme au Conseil de l'Europe, à Strasbourg, il y a toujours une volonté de faire primer la personne contre l'État. Ce qui est important de comprendre quand on parle des droits de l'homme, c'est qu'il y a en fait une corrélation stricte entre le droit et l'homme. Les droits sont définis par l'homme. C'est l'homme qui est le contenant, le substantif, et les droits sont déduits de l'homme. Entre l'homme et les droits, il y a une corrélation. Tout changement de compréhension de la nature humaine, de l'homme, entraîne nécessairement un changement de la compréhension de ses droits. Et c'est ce que nous voyons avec l'évolution de la société, l'individualisme en particulier, et aujourd'hui toutes les questions de société sur l'avenir de l'homme, sur le transhumanisme, renvoient directement aux droits. Se traduisent par le droit. Le droit est devenu le miroir. Les droits de l'homme sont le miroir social dans lequel notre société regarde l'homme. Nous nous définissons aussi à travers les droits de l'homme, puisqu'ils sont ceux par quoi, finalement, nous nous reconnaissons et qu'ils défendent ce que nous considérons d'important en l'homme.
Frédéric Worms.
Oui, d'abord merci de cette invitation à discuter des droits de l'homme, qui est d'autant plus important de discuter que je suis pas sûr d'être entièrement d'accord avec le fait qu'ils n'ont plus d'ennemis déclarés. Je pense qu'il s'agit plus seulement de dissensus entre des personnes qui défendraient les droits de l'homme. Il y a maintenant très clairement, sous des motifs culturalistes ou de réel politique, revenus un peu partout, et même d'un totalitarisme qui, au fond, n'a jamais entièrement disparu, il y a vraiment des adversaires déclarés des droits de l'homme, ce qui n'empêche pas, en effet, et ça a toujours été le cas, c'était le but de cette anthologie que vous avez citée, que j'avais faite déjà peu après le bicentenaire, pas si consensualiste que ça, en 1989, parce qu'on oublie que la première déclaration date de 1789, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des dissensus à l'intérieur de ceux qui parlent des droits de l'homme. Et je crois que ce qui est très important, c'est ce qui vient d'apparaître, c'est de rappeler qu'il y a un consensus fondamental de base, malgré tout, dans des moments très rares, en fait. Et le moment de 48, après des violations, en effet, extrêmes, a bien montré qu'il y a un consensus majeur sur lequel il ne faut pas céder, et que les droits de l'homme désignent, malgré tout, et j'allais dire envers et contre tout, c'est la limitation absolue des relations entre les hommes par certains principes qu'ils érigent entre des relations de pouvoir sur les hommes, mais aussi même des relations entre les hommes, j'allais dire entre vous et moi, finalement. Et ce qui fait que si je commets une injustice à votre égard, vous allez me dire que je n'ai pas le droit, et vous aurez raison, et inversement. Et donc je pense que ce noyau dur, il ne faut pas céder dessus, et que après les discussions peuvent commencer, et j'entends déjà un point de dissensus entre nous, même si sur ce noyau dur, je suis content qu'on soit d'accord, c'est que, à mon avis, bien loin d'une définition essentielle de l'homme, quelle qu'elle soit, les droits sont d'abord là pour régler leurs relations et pour limiter ces relations, et non pas sur une essence supposée de la nature humaine sur laquelle il peut y avoir un désaccord qui entraîne la guerre.
Alors, je disais qu'il y a consensus parce que les islamistes, même les plus radicaux, par exemple, se réclament des droits de l'homme contre une conception qu'ils jugent intransigeante de la laïcité. Ils invoquent la liberté de conscience pour justifier le port du voile intégral, par exemple. Je constate, c'est pour cela aussi que je parlais de cette espèce d'unanimité autour des droits de l'homme, alors même que leur définition est parfois contradictoire.
Il y a, dans les années 70, que vous avez cité en commençant, Alain Finkielkraut, dans les années 70, il y avait certains intellectuels que vous avez évoqués qui disaient « on peut en faire un usage tactique ». contre ceux qui les défendent, mais stratégiquement, on vise une société qui n'est pas fondée sur les droits de l'homme. Les discours que vous évoquez me semblent relever de cette tactique, finalement. Tactiquement, on peut dire qu'on, pour soi-même, qu'on défend la liberté de conscience, qui a des limites. Vous voyez bien que dans nos démocraties qui sont fondées, en effet, sur les droits de l'homme, il y a des limites à la liberté d'expression. Il y a, on ne peut pas faire des appels à la haine et au meurtre, et on ne peut pas appeler en particulier à n'importe quoi contre les autres religions. Mais je crois que, fondamentalement, vous mettez le doigt sur un exemple très important. Si c'était suivi des faits, si quelqu'un qui est musulman réclame en effet la liberté de conscience, ça ne me pose aucun problème. Et s'il la met en pratique, si tout le monde peut pratiquer sa religion dans des limites communes, voilà, c'est la différence sûrement entre n'importe quelle religion et son isme. Et, l'isme de cette religion est forcément au fond contre les droits de l'homme.
Maintenant, allons au dissensus et sans doute donc à votre divergence. Grigor Pupink, vous dites dans votre livre que, d'entrée de jeu, deux conceptions opposées de l'homme et de sa dignité étaient en concurrence. D'un côté, l'homme est fils, porteur d'une nature et recevant sa dignité de Dieu ou de la nature. De l'autre, l'homme est son propre père. Entre ces deux approches, l'opposition est radicale. Et vous dites que les droits de l'homme sont, dans un cas, l'expression du droit naturel et dans l'autre, l'expression de la volonté. Et l'expression de la volonté, selon vous, mène à la situation actuelle, c'est-à-dire les droits de l'homme dénaturés. Et si je vous suis bien, nous sommes, avec cette conception, aux antipodes de la déclaration de 1948. Alors pouvez-vous étayer cette argumentation, et notamment par des exemples. Grégoire Pupink.
La nature humaine est finalement ce que tous les hommes partagent. La déclaration de 48 des droits de l'homme se fonde d'abord sur l'affirmation de l'égale dignité de tout homme, de notre fraternité, de notre dignité inhérente. Et la question qu'il faut se poser, c'est quel est le fondement qui nous permet de prétendre à la vérité des droits de l'homme et surtout à leur universalité. En quoi est-ce qu'ils résident ? Si on place l'origine des droits de l'homme dans la volonté, elle est forcément individuelle. Elle n'est plus universelle. Et elle se traduit par des rapports de force. Si on place l'origine des droits de l'homme dans des conceptions positivistes, que ce soit laïque, étatiste ou religieuse, certaines religions très positivistes imposent un code et finalement ont une conception voulue des droits de l'homme. De mon point de vue, la nature humaine, c'est ce que nous partageons tous à travers l'humanité, et c'est l'universalité de notre nature qui est à la fois la source de l'autorité des droits de l'homme, de leur universalité, et c'est aussi la nature humaine qui est la source du contenu des droits de l'homme. Très simplement, pour comprendre la liste des droits de l'homme, d'où vient cette liste? Comment est-ce qu'on a fait cette liste? On ne s'est pas simplement mis autour d'une table pour dire, voilà, il faut déclarer, il faut protéger la liberté d'expression, etc. Non.
C'est très important de se mettre autour d'une table,
oui,
malgré tout.
Oui, mais la liste, elle a une signification plus profonde. Plus profonde. La liste des droits de l'homme, le contenu des droits, elle est en fait le reflet précis de toutes les facultés par lesquelles chacun s'humanise. Les droits de l'homme de 48 visent à protéger la faculté pour chaque personne de s'humaniser, depuis l'enfance. Et les droits de l'homme protègent en cela la liberté, d'abord la vie. La vie, parce que nous sommes, dans notre nature humaine, des êtres vivants. Tous les droits sociaux, les droits aussi de société, liberté d'association, liberté d'expression. Le droit de fonder une famille, de se marier, d'avoir des enfants, transmettre la vie. Et puis les droits qu'on peut appeler de l'esprit, liberté de pensée, liberté de conscience, liberté de religion. Et donc les droits de l'homme, la liste des droits de l'homme, recouvre précisément chacun des aspects de notre nature humaine. Et de mon point de vue, cette vision humble des droits de l'homme, limitée, cherche à protéger ce qui fait notre humanité. Et c'est aussi cette objectivité de l'origine des droits de l'homme qui a permis leur universalité. C'est parce que nous avons ces éléments-là en commun que tous les pays et toutes les cultures peuvent se mettre d'accord.
Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Les droits de l'homme ne sont pas simplement des droits protecteurs, oui. Dites-vous. Ils sont engagés dans une espèce de libération infinie. Oui. Et donc nous avons en quelque sorte changé de paradigme,
alors,
si je vous suis bien.
Ça, c'est un constat. C'est un constat que j'ai fait, moi, depuis de nombreuses années. Je travaille à Strasbourg auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. J'ai constaté effectivement que la Cour, aujourd'hui, protège des droits qui, autrefois, étaient des interdits. Donc comment se fait-il que des actes autrefois interdits au nom de la dignité soient aujourd'hui présentés comme des droits individuels au nom de la dignité. Donc il y a eu un renversement, cet objectif, c'est un fait. Maintenant, j'ai cherché à comprendre la raison, et alors, ce que j'ai pu observer comme changement, c'est en fait notre conception de la dignité. Je pense qu'il y a, et ça nous aurons l'occasion d'en discuter, évidemment plusieurs compréhensions de la dignité. Une compréhension de la dignité est celle de la vision de l'homme comme étant l'union harmonieuse du corps et de l'esprit. Ça veut dire l'idée que finalement être un homme, ce que nous avons tous en commun, nous ne sommes pas seulement des esprits désincarnés, nous ne sommes pas seulement des volontés, mais nous sommes des êtres qui avons cette particularité d'être à la fois un corps et un esprit, et que nous nous humanisons dans cette pleine dimension, physique et psychique. La vision des droits de l'homme du droit naturel de 48, selon moi, elle cherche à couvrir l'ensemble des aspects de notre nature. Ce sont des êtres qui ont aussi une famille, qui ont un corps, qui ont un métier, qui ont une région, qui ont une langue, qui ont une religion, à la différence peut-être de ce 89 qui était plus réductif. À l'opposé, je vois qu'aujourd'hui, la compréhension de la dignité tend à se limiter de plus en plus à la seule volonté. On voit l'origine de la dignité davantage dans le seul esprit, dans la seule possession d'une faculté spirituelle ou intellectuelle. Et donc finalement, c'est l'origine de la valorisation que l'on connaît maintenant depuis plusieurs décennies de l'autonomie.
Frédéric Worms.
Oui, moi j'ai une conception encore plus humble que vous des droits de l'homme. Parce que d'abord, je pense que il y a plus que deux possibilités telles que vous les mettez face à face. Vous opposez à une sorte de nature humaine qui philosophiquement peut se rejoindre, bien sûr. Je pense que chacun doit comprendre ce qu'est l'être humain, à la fois en lui-même et dans son nature d'être vivant, d'être social, d'être parlant, d'être conflictuel aussi, d'être traversé par la violence, par la négativité, par la maladie, par le refus de la mort. Hein, cette négativité qui fait partie de la nature humaine autant que sa positivité que vous décrivez. Ça, c'est le rôle de la philosophie, de l'anthropologie. Et d'un autre côté, on peut penser que l'homme a une volonté, on peut penser ce qu'on veut. Pour moi, précisément, je pense pas que les droits de l'homme soient fondés, comme vous l'avez dit, sur l'homme comme sur leur sujet préalable. Je pense au contraire que les droits de l'homme sont plutôt fondés pour limiter les actions humaines, quelle que soit leur conception de leur nature, leur conception de la nature faisant partie de ces actions et justifiant parfois leurs actions. Et les droits de l'homme sont plutôt le seul instrument qu'ont inventé les humains, après des siècles de guerres et de massacres mutuels, pour pouvoir coexister à travers leurs différentes conceptions d'eux-mêmes. Cette différence faisant partie, c'est la condition même de notre justement coexistence autour de cette table, cette différence faisant partie des problèmes humains à régler. On ne peut pas dire qu'il y a une nature humaine au sens où tous les hommes seraient d'accord sur cette nature. Et dans cette nature, en tout cas, il y a aussi le désaccord, le conflit et la guerre. Et je pense que cet oubli du négatif, dans la présentation que vous faites, mutile la véritable nature des droits de l'homme, qui est plutôt de lutter contre la négativité entre les humains que de défendre une nature positive. C'est pour ça que je trouve très ambitieuse, y compris dans la déclaration de 48, l'idée de réaliser parfaitement une nature humaine. C'est un peu comme dans la conception de la santé de l'OMS, qui dit c'est le bien-être de l'homme. On peut être d'accord, mais en réalité, la conception que les médecins se font de la santé, c'est bien plutôt de lutter contre la maladie. Et cet oubli du négatif me semble très grave, parce que ça réintroduit une guerre entre des positivités. D'un côté, il y aurait des matérialistes volontaristes, dont moi je ne suis pas, au sens que vous décrivez. De l'autre côté, une nature humaine éternelle. Et finalement, c'est reconduire entre la guerre que la déclaration des droits de l'homme a toujours été là pour empêcher. Et donc, je pense qu'il faudrait revenir sur la fonction que vous avez dite vous-même au début, c'est-à-dire finalement d'éviter les violences fondamentales. Et je crois d'ailleurs que ça expliquerait aussi certaines des surprises que vous avez devant certaines tensions à l'intérieur des droits de l'homme, c'est-à-dire à l'intérieur de l'application des droits de l'homme. Les principes sont peut-être simples, mais leur application est forcément compliquée parce qu'il s'agit d'interdire des actes, de limiter des actes. Et par exemple, si on revient tout à l'heure sur l'éthique médicale, je pense qu'il peut y avoir des contradictions dans la vie humaine, notamment dans des cas de souffrance extrême et à l'approche de la mort, des contradictions. Je ne veux pas dire surtout qu'il faille faire usage de droits absolus dans aucun cas.
Oui, alors, justement, arrêtons-nous un peu à cette question de la nature humaine. Vous voulez fonder les droits, Grégoire Pupping, sur une certaine idée de la nature. Vous rejoignez en cela Pierre Manant et notamment son livre « La loi naturelle et les droits de l'homme ». Il réhabilite, il tente de réhabiliter cette notion aujourd'hui oubliée ou dédaignée de loi naturelle. Et il dit « toute action proprement dite exige une collaboration et une pondération entre les trois principaux motifs humains que sont l'agréable, l'utile et l'honnête ». Il en vient à dire, une société, un régime, une institution qui ne font pas suffisamment de place, qui n'ouvrent pas une carrière suffisante aux trois grands motifs, justement, de l'agréable, de l'utile et de l'honnête, cette société, ce régime, cette institution ne sont pas conformes à la loi naturelle. Voilà ce qu'il croit pouvoir opposer au relativisme culturel contre la souveraineté illimitée des droits individuels, contre le fait de définir l'homme seulement comme l'être qui a des droits. Bien, mais j'ai été très surpris, Gregor Pupink, de lire la définition que vous donniez de la nature, et il me semble qu'avec votre définition, vous ruinez en quelque sorte la belle tentative de Pierre Manant. Parce que vous écrivez « contraception, avortement, divorce, pornographie, euthanasie, homosexualité, eugénisme, toutes ces pratiques largement prohibées après-guerre sont à présent des droits et leur critique est un interdit ». Et vous en revenez souvent à cette question de l'homosexualité, vous dites que après avoir longtemps admis la pénalisation des relations homosexuelles, la Cour européenne a imposé la dépénalisation en les faisant entrer dans le champ de la vie privée. Et vous semblez regretter que la Cour suprême des États-Unis ait déclaré que la réprobation morale ne confère pas une justification légitime à la législation du Texas criminalisant la nostalgie. Vous ajoutez, autrefois, le consentement d'une personne à sa propre mort, à sa prostitution, à la vente d'un de ses organes, ou à l'accomplissement d'une pratique contre nature, telle la stérilisation ou l'homosexualité, ne permettait pas d'exonérer de sa responsabilité pénale l'auteur de ses actes. Mais si la nature c'est ça, si la loi naturelle c'est ça, personne n'en veut. Et d'ailleurs, quand l'encyclique Humanae Vitae est parue pour dire que non seulement l'avortement, mais la contraception était contraire à la loi naturelle, ça a vidé les églises et les gens se sont encore plus détournés de cette loi naturelle dont nous avons peut-être besoin pour une définition plus positive de l'homme. Grégoire Pupink.
Oui, en fait, moi, je ne démords pas de la loi naturelle, exprimais tout à l'heure comme étant effectivement ces éléments qui dépendent directement de notre nature et qui est déterminé par notre accomplissement. La critique que je formule et que vous venez de citer, elle vise principalement à montrer qu'il y a eu, depuis 1948, un renversement. Le renversement du rapport que nous avons à notre propre unité, corps-esprit. L'unité du corps et de l'esprit, la compréhension de l'homme comme étant un tout, devant tendre à une forme d'harmonie et d'accomplissement, est à la base du principe d'indisponibilité du corps humain, exprimé en droit, à savoir l'idée que l'on ne peut pas, le principe que l'on ne peut pas agir contre son propre corps, même si on le souhaite. Ce principe était fondamental et il exprimait le respect que chacun doit avoir, non seulement envers lui-même, mais surtout à travers lui-même, à l'égard de notre commune nature. Le principe d'indisponibilité, le principe selon lequel on ne peut pas agir contre son propre corps, c'est le principe qui protège, qui tend à assurer la protection de notre commune dignité partagée avec les autres êtres humains. Et donc, ce n'est pas une conception individualiste. Il est évident que depuis, c'est une conception individualiste qui s'est imposée, par laquelle c'est la volonté individuelle, non plus qui tend non plus à l'harmonie, on va dire, ou à l'accomplissement, mais la volonté individuelle sur soi-même, et la volonté individuelle elle-même qui est le siège de la dignité. Le siège de la dignité. Et donc, on voit bien tous ces renversements, que ce soit évidemment l'homosexualité, mais aussi les questions de fin de vie ou de sadomasochisme. La Cour européenne des droits de l'homme a eu un arrêt très retentissant dans lequel elle protégeait, elle reconnaissait comme une liberté. Ça avait, à l'époque, provoqué de grands débats. Montre bien qu'il y a ce renversement, cette idée, effectivement, que la volonté elle-même est le porteur de notre humanité. C'est la volonté qui est le caractère distinctif de notre humanité et donc de notre dignité, et qui doit seul être source des droits.
Frédéric Worms, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, il y aurait beaucoup à dire. Je pense qu'il faut distinguer les choses d'une manière très nette et en même temps, ça m'amènera à distinguer des points d'accord et de désaccord. Il y a par exemple un point fondamental sur lequel toutes les législations de bioéthique, par exemple, et les déclarations des droits les ont soutenues, sont d'accord. C'est que le corps humain fait partie de sa personne. Le corps humain a donc une inviolabilité, et l'indisponibilité dont vous parlez, elle est préservée par exemple dans les lois de bioéthique françaises par le principe que les organes, les parties du corps ne peuvent pas faire l'objet d'un commerce, ni d'un impôt, ni d'un vol, a fortiori, ni d'une fraude, comme dans certains pays qui se réclament même parfois de la nature humaine, mais elles doivent faire l'objet uniquement d'un don. Dans le transfert d'une partie, transférer une partie du corps à un autre, même pour lui sauver la vie, comme des organes, du sang ou des choses de ce genre, ne peut venir que d'un don. Pourquoi ? Parce que mon corps fait partie de moi. Et donc, en effet, il y a une conception de la personne dans les droits de l'homme. Et l'homme, c'est aussi son corps. Mais c'est précisément pourquoi il nous est interdit d'imposer à autrui également des actes qui détruiraient ce corps ou qui détruiraient la conception qu'il se fait de sa vie et de l'usage de son corps, tant qu'il ne nuise pas à autrui et tant qu'il ne transgresse pas ce principe ni pour lui-même, ni pour les autres. C'est pour ça que je suis d'accord avec Gregor Pupping sur le principe du don, de l'appartenance du corps à la personne humaine, et c'est dans les lois de bioéthique françaises. En revanche, condamner l'homosexualité ne relève pas du tout de la même chose, puisque là, ça ne peut relever que d'une conception normative de la sexualité humaine, sur laquelle il peut y avoir légitimement des accords, et donc sur laquelle la loi n'a pas à trancher, parce que ça ne fait violence à personne, finalement. Ça ne fait violence à aucun corps humain et à aucune personne humaine que de ne pas interdire des pratiques qui ne font justement de violence à personne.
Et les interdire, en revanche, ça fait violence aux homosexuels.
Les interdire fait violence à la diversité humaine, à la liberté des humains. Et il faut plutôt interdire certaines pratiques dans toutes les sexualités, par exemple le viol. Il faut beaucoup mieux se centrer sur l'interdit du viol que sur une dénonciation de l'homosexualité. Le viol dans tous les principes de dans toutes les relations sexuelles, quelles qu'elles soient, de même que l'intolérance dans toutes les religions, quelles qu'elles soient, la clôture dans toute religion, quelles qu'elles soient, par opposition à la tolérance. Donc il faut plutôt, les droits de l'homme sont plutôt transversaux à toutes les pratiques. Ce ne sont pas du tout des idéalisations absolues. C'est-à-dire que dans chaque pratique, il y a des limites. La sexualité a des limites, mais ça n'est pas une limite d'essence sur être homo ou hétérosexuel. Oui, ce sont dans chaque pratique, vous dites le sadomasochisme, moi j'en sais rien, j'ai pas lu ces textes-là, mais il est certain que s'il y a des violences dans certaines pratiques sexuelles qui sont non consenties, et même qui consenties entraîneraient la mort, toutes les lois l'interdisent.
Je pense que nous pouvons effectivement avoir des positions mais différentes en matière morale, mais l'objet de mon travail, de mon livre, n'est pas de prendre directement position, mais surtout d'essayer de comprendre le mouvement dans lequel s'inscrit l'évolution des droits de l'homme. Essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'effectivement, il y a eu un changement fondamental. On ne peut pas nier l'existence de ce changement. Et c'est lui que je décris et que j'analyse. Effectivement, sur l'homosexualité, comme sur d'autres sujets, et dont je n'ai pas attaqué aucunement l'homosexualité dans ce livre, sur ce sujet, comme sur d'autres sujets, il y a eu un renversement important. Et je pense qu'il faut le comprendre, et il faut l'analyser, et c'est ce que je fais. Je ne porte pas nécessairement directement de jugement sur cette évolution, j'essaye de la comprendre. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un changement important dans notre rapport au corps, et dans surtout l'origine que l'on se fait de la dignité.
Est-ce que je peux répondre?
Bien sûr, Frédéric.
Je crois que Gregor Pupping a raison de dire qu'il y a des changements, et il y a peut-être des changements qu'il faut condamner. Il y a aussi des choses qui n'ont pas changé. En particulier, précisément, les grands principes, et en particulier sur ce que vous dites, qui est important, sur le rôle du corps. Les lois de bioéthique le montrent bien. La gratuité et le principe du don montrent bien que, en tout cas dans les États démocratiques, qu'il ne faut pas critiquer, qu'il faut défendre absolument, parce que ce sont les seuls qui vous préservent de ça. Dans les États démocratiques, on ne peut pas vendre ou trafiquer des organes. Bon. Et il y a des choses qui ont changé aussi pour le mieux. Parce que précisément, on s'aperçoit que l'application des droits de l'homme n'a pas toujours été parfaite, et même ne le sera jamais. Dans mon travail sur les maladies chroniques de la démocratie, c'est justement l'un des buts de ce que j'essaye de montrer. Et il y a d'ailleurs un tort, un travers de beaucoup de critiques des droits de l'homme depuis 1789, et qu'on retrouve un petit peu dans les critiques un peu générales qu'on vient d'entendre, c'est qu'on fait comme si les droits de l'homme étaient réalisés. En réalité, les droits de l'homme sont des principes qui luttent contre des choses qui sont toujours là et qui sont, et qu'il faut toujours un petit peu raffiner. On s'aperçoit, par exemple, que l'interdit de l'homosexualité faisait partie des violations majeures. Que le droit des femmes à voter, au moment même où on déclare les droits de l'homme, il y a encore des pays où les femmes ne votent pas. Il y en a encore aujourd'hui même. Donc dire que les droits de l'homme sont réalisés partout, alors que les droits de la femme ne le sont pas, c'est évidemment faux. Donc il y a aussi des progrès des droits de l'homme. Et la nature humaine, dans tout cas l'égalité et la non-destruction des humains les uns par les autres, a encore des progrès à faire. Donc il y a des changements dont il faut se réjouir, d'autres qu'il faut regretter et des choses qui ne changent pas.
Je crois qu'il faut aussi distinguer une approche juridique des droits de l'homme et une approche philosophique. On peut avoir une vision philosophique des droits de l'homme, et c'est manifestement votre cas. On peut avoir une vision progressiste des droits de l'homme. Qui part d'un présupposé selon lequel, effectivement, ils se construisent avec le temps pour assurer la coexistence au sein de la société. C'est une bonne chose.
C'est déjà pas mal, en tout cas.
C'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. De façon plus pragmatique, les droits de l'homme, moi, tel que je les travaille chaque jour, c'est avant tout dans la réalité du droit, dans la réalité des rapports entre les États, en Europe et au plan universel. Et ce que je vois, c'est qu'on peut effectivement vouloir des changements ou avoir des conceptions personnelles des droits de l'homme, de ce qui serait bien. Mais dans la réalité, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'ils sont contestés partout, en Europe et au plan universel. Et pourquoi est-ce qu'ils sont contestés? Pourquoi? Parce que précisément, il y a des philosophies qui s'opposent. La philosophie désincarnée, du volontarisme, elle existe. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et si vous voulez préserver les droits de l'homme pour l'avenir, effectivement, il faut, je pense, essayer d'abord de comprendre, de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir une philosophie,
bien sûr, tout à fait,
et de revenir à une vision.
Oui, mais je ne vois pas en quoi la dépénalisation de l'homosexualité relève de cette philosophie désincarnée, de ce volontarisme, de ce subjectivisme débridé dont vous parlez. Le principe fondamental des droits de l'homme, c'est l'égale dignité des êtres humains. C'est ce que Tocqueville appelle le progrès de l'égalité des conditions. Considérer que les homosexuels n'ont pas droit à cette égalité, c'est violer ce principe fondamental. Donc là-dessus, je crois qu'il devrait pouvoir y avoir consensus pour qu'ensuite on puisse légitimement s'inquiéter sur certains emballements, et notamment sur l'emballement de l'idée d'égalité qui peut ruiner toute forme d'autorité, toute forme de hiérarchie, et notamment dans l'enseignement. Mais là, c'est la base, si vous voulez. Je veux dire, tout d'un coup, exclure les homosexuels, alors pourquoi pas exclure les juifs, etc. Enfin, il y a quelque chose de révoltant dans cette idée-là, du point de vue même de toutes les philosophies des droits de l'homme.
Je comprends très bien. Je comprends très bien. Et évidemment, la dignité est la même pour toute personne. C'est le principe même à l'origine des droits de l'homme. C'est le constat de la commune dignité. Quand j'utilise l'exemple, à titre d'exemple, du changement de l'attitude de la société à l'égard de l'homosexualité, et en particulier du changement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet, c'est pour bien montrer que la normativité, la norme, l'origine de la norme, de la légitimité maintenant, repose dans la volonté, dans l'usage que l'on fait librement de son corps. C'est le cas de, effectivement, l'homosexualité, qui a longtemps été critiquée en raison d'un usage du corps qui était jugé contraire.
Frédéric Vivant, vous disiez tout à l'heure que j'allais trop vite en parlant d'unanimité autour des droits de l'homme.
Il y a des permis ça, là,
mais vous avez bien fait. Et d'ailleurs, vous avez raison, ou partiellement raison, puisqu'en effet, on voit apparaître, en Europe, des démocraties qui se disent elles-mêmes illibérales et qui veulent limiter l'application des droits de l'homme. Mais moi, je voudrais prendre acte aussi d'une sorte de mouvement antidémocratique d'un certain droit de l'homisme dont vous ne parlez pas. Des pétitions sont parues en rafale récemment proposant un meilleur accueil des migrants et même une hospitalité inconditionnelle. En finir avec les frontières, et ces pétitions opposaient l'obsession de l'identité et la passion de l'égalité. Une égalité entre les citoyens et les étrangers, ceux qui arrivent. Si cette égalité est admise, si elle entre dans le droit, c'en est fini des démocraties en tant que communauté politique particulière. Donc là, on voit bien que les droits de l'homme sont invoqués contre la souveraineté, mais aussi même contre l'exercice démocratique lui-même. Donc il y a danger illibéral dans certains régimes, et il y a danger antidémocratique dans un certain usage des droits de l'homme. Frédéric Worms.
Alors, je vais essayer d'être très clair dans une réponse en insistant sur la légitimité du minimal et une certaine critique d'une rhétorique maximale. Je voudrais être très très clair. Les droits de l'homme, d'ailleurs j'aurais plutôt envie de dire d'ailleurs les droits des êtres humains, comme Simone Veil parlait des devoirs envers les êtres humains, et d'ailleurs au fond, je pense que c'est à peu de choses près exactement la même chose, et la loi naturelle le demanderait aussi, impose quelque chose de minimal, à savoir ne pas laisser mourir, par exemple à nos frontières. Il y a des frontières. Est-ce que c'est une raison pour que, au bord de ces frontières, on laisse des êtres humains mourir? Est-ce que c'est une raison pour ne pas sauver les vies, sauver les corps, comme vous savez très bien que ça a été le mot d'ordre qui, autant que la dissidence, a accompagné autour de... Alors, il y a eu des dérives, comme toujours, c'est possible. Bon, mais ce minimum-là, il ne faut pas céder sur ce minimum. Et je crois que nous sommes tous d'accord là-dessus, et Pierre Manant le serait aussi, au nom de la loi naturelle elle-même. Cette loi naturelle qui impose un devoir, et ce devoir qui est quand même absolu. Bon. Maintenant, il y a évidemment des rhétoriques autour de cet usage des minima moraux que définissent les droits de l'homme, qui sont aussi d'ailleurs des minima sociaux, car je ne vois pas de différence dans les façons d'empêcher les êtres humains de mourir et d'éviter le pire absolu. Il y a des rhétoriques maximales. Dans ces rhétoriques maximales, il faut d'ailleurs un peu distinguer, mais en tout cas, ce dont je suis certain, c'est qu'il y a eu des rhétoriques abstraites, dangereuses, autour de la réalisation, alors là je suis entièrement d'accord avec vous, hein, des droits de l'homme comme réalisation de tous les désirs, de tous les êtres humains, partout et tout le temps. Et il est évident que ça n'est pas le cas. S'il y a des comités d'éthique en France et des lois, c'est pour limiter. C'est pour dire, par exemple, que tout ce qui est techniquement faisable ou même désirable n'est pas possible. On ne peut pas dire que la procréation assistée, c'est tout ou rien. Dans tous les États démocratiques du monde, il y a des limites. Et en France, elles sont très précises. Et donc, le maximalisme que Grégoire Pupin dénonce parfois dans le transhumanisme, je suis entièrement d'accord pour le critiquer. Et je pense que cet ultra-démocratisme, qui en fait vient nier la démocratie, puisque la démocratie, c'est des limites, c'est le pouvoir du peuple auto-limité par le peuple au nom de principes universels.
Et les frontières elles-mêmes sont des limites.
Et les frontières, je pense qu'on ne peut pas se passer de la question de la frontière. Des limites communes. Bon. Maintenant, donc, ce maximalisme-là, cette dérive, elle existe. Ce n'est pas une raison pour jeter les principes dont elle est la dérive. Et je crois que c'est effectivement ces excès rhétoriques, parfois chez les transhumanistes, qui sont des ultra-individualistes, qui n'ont plus rien à voir avec les droits des êtres humains entre eux, qui sont notre boussole unique. Ils ont nourri l'antidémocratisme que vous évoquez, Alain Finkielkraut. Ils ont nourri les illibéralismes. Et il y a une sorte de cercle vicieux aujourd'hui entre les excès des deux côtés. Les êtres raisonnables que sont les démocrates, j'allais dire réellement démocrates, qui pensent les limites, sont maintenant pris entre deux feux. Et nous sommes un peu pris entre deux feux, et je tiens à le dire, ça n'est pas facile. Et il faut défendre cette position qui est la plus difficile, et c'est toujours celle de la limite qui est la plus difficile. Bon. Mais voilà, je pense qu'en effet, vous avez raison. Au nom de cela, maintenant, on traite les autres de droits de l'hommiste. Ne nous laissons pas traiter de droits de l'hommiste. Moi, je ne suis pas un droit de l'hommiste, mais au nom des droits de l'hommiste, au nom de cette critique de ce que certains se permettent d'appeler droits de l'hommiste, je pense qu'il faut absolument refuser cette expression. On critique les droits de l'homme. Donc, défendons les droits minimaux des êtres humains, qui sont aussi les devoirs minimaux des êtres humains, et ne faisons pas, au nom des frontières, ne nous faisons pas complices de ce qui est quand même un crime contre l'humanité, même si l'expression est peut-être excessive d'un point de vue strictement juridique aujourd'hui. Mais dans quelques années, quand nos petits-enfants nous regarderont, peut-être qu'ils n'hésiteront pas à l'employer.
Je ne suis pas sûr, parce qu'on
non,
peut pas dire
un peu excessif,
que l'Europe se soit rendue complice. Des bateaux ont sauvé un très nombre,
maintenant, on en
un
est
très grand nombre.
On refuse d'aller sauver les corps. On n'en est même plus à sauver les corps.
Oui, mais il est vrai aussi que les trafics de passeurs ne cessent de se répandre.
Et
nous hésitons. Effectivement, il faut sauver les corps sans se rendre complices du trafic d'êtres humains.
Absolument.
Ce qui est aussi
entièrement
une
d'accord.
difficulté. Mais, Grégor Pupink, vous critiquez la dénaturation des droits de l'homme. Cette critique me rappelle un passage de l'Immortalité de Kundera, et c'est curieux parce que c'est un auteur venu d'Europe centrale qui dénonce la dérive actuelle des droits de l'homme, puisque elle est devenue, dit-il dans l'Immortalité, l'attitude commune de tous à l'égard de tout, une sorte d'énergie transformant tous les désirs en droits. Transformation de tous les désirs en droit. Alors là, je vais vous poser une question précise. Pensez-vous que les possibilités offertes par les nouvelles techniques de procréation, la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes homosexuelles et pour les mères célibataires, et éventuellement la gestation pour autrui, pour les couples homosexuels masculins, pensez-vous que cela relève de cette transformation de tous les désirs en droit ?
Bien sûr, bien sûr, ce sont des exemples manifestes. Encore une fois, l'idée est que la légitimité, la dignité contenue dans la volonté est exprimée par le désir. Donc un désir aussi fondamental qu'un désir d'enfant, ou un désir de mort dans le suicide assisté ou l'euthanasie, est reçu avec une force très grande par la société et tend à s'exprimer à travers un droit. Dès lors que nous avons les moyens techniques pour accomplir des désirs, eh bien les désirs vont venir finalement à mesure que les moyens seront disponibles. Donc oui, c'est bien l'exemple. Moi, je vois pas tellement de rupture en fait entre certaines pratiques de la PMA, ce que j'appelle moi les droits antinaturels, c'est les droits qui s'expriment par opposition à la nature, l'idée que j'ai mon droit et que finalement j'affirme mon droit par négation de la nature, avec les droits que j'appelle ensuite transnaturels, qui sont les droits que je revendique de transformer la nature. Je pense que les deux sont intimement liés et que, effectivement, la PMA, évidemment, est une marche qui conduit sans aucune contradiction au transhumanisme. C'est un chemin. C'est un chemin. Je ne vois pas de différence. Et ce qui m'inquiète, et c'est là la description que je fais dans le livre, c'est que je ne vois pas dans les droits de l'homme, tels qu'ils sont devenus, un instrument susceptible de nous protéger du transhumanisme.
Non. Alors, vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique, Frédéric Worms. Quelle est votre réponse ?
En tout cas, il est certain qu'elle ne sera pas tout ou rien. Il est certain que tout ce qui est présent dans les textes d'une instance au nom de laquelle je ne parle pas du tout ici, on est à titre personnel, mais que j'assume totalement le rôle même fondamental dans notre société entre la science qui permet certaines choses et la loi qui va en interdire d'autres. Il faut réfléchir sur les usages, justement. Et c'est essentiel qu'il y ait des instances de ce genre qui disent justement ces questions-là ne sont pas des questions politiques de gauche ou de droite, sinon le Parlement suffirait. Et il faut précisément réfléchir avec des éthiques qui peuvent différer. Il faut un espace de conciliation et la loi en tiendra compte ensuite dans sa définition la plus consensuelle possible, qui ne recouvre pas les lignes politiques classiques de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Et donc ça n'est pas tout ou rien. Quels sont les critères ? Les critères, ce sont effectivement les limites des actions entre les êtres humains. C'est certainement l'une des raisons pour laquelle, à titre personnel, et je suis entièrement d'accord avec les avis du comité d'éthique qui recommande, hein, puisque c'est le rôle, de maintien de l'interdiction de la GPA, qui fait violence à certaines relations fondamentales fondamentale entre les êtres humains, et cela plutôt par opposition à la procréation assistée entre couples qui n'ont pas besoin de passer par le corps d'une autre femme, disons, entre couples où il y a une femme. Et par exemple, je trouve que ce que dit Gregor Pupink est très cohérent, puisque l'une des questions, dans sa logique, puisqu'effectivement l'Église catholique, et j'ai pas de jugement à porter, je trouve que là aussi il y a une cohérence, mais qui pose déjà des dilemmes très profonds, en fait, interdit ou déconseille, disons, je sais pas quel est le mot qu'il faut employer, la procréation assistée également aux couples hétérosexuels. On l'oublie parfois. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une très grande cohérence, mais c'est vrai qu'un couple hétérosexuel infertile,
oui,
qui ne peut pas avoir d'enfant naturellement, se voit interdit le recours à une technique qui pourrait l'aider. Et certains sont dans des contradictions très profondes, je n'ai pas à juger. Disons qu'en tant que cette position, si cette position venait à s'imposer dans toute la société, les gens qui ne seraient pas d'accord ne pourraient plus le faire. Donc, la bioéthique, les droits de l'homme, sont une manière de poser des limites dans un cadre pluraliste, sans imposer une doctrine a priori à tous, puisqu'il y a plusieurs doctrines dans une société pluraliste. Et là où le point très important, parce que j'imagine que la question va venir, c'est de ne pas confondre pluralisme et relativisme. Le pluralisme est plutôt la mise en commun de limites au-delà desquelles, en effet, on viole les relations entre les êtres humains et elles ne seront plus possibles. Et donc, oui, il faut des limites communes au-delà de tout a priori.
Oui, mais justement, la PMA pour les couples hétérosexuels infertiles, dans ce cadre, la médecine ne sort pas de ses limites. Mais
certaines doctrines religieuses interdisent déjà ça. Hein,
oui, c'est vrai. Bien, mais conscient, mais dès lors qu'il s'agit de répondre à des couples de femmes homosexuelles ou à des femmes célibataires, la médecine sort de son horizon thérapeutique. Et est-ce que ça ne conduit pas nécessairement, première question, à transformer le désir d'enfant en droit à l'enfant avec l'appui de la technique, Frédéric Force?
Alors, les choses dans le détail sont toujours un peu plus compliquées. Hein, parce que, par exemple, un couple hétérosexuel infertile, l'infertilité n'est pas une maladie. Aucune des deux personnes de ce couple ne va mourir d'infertilité. La médecine a en effet pour but, et l'éthique médicale d'abord, de lutter contre les maladies et contre la mort. De ce point de vue-là, il y aura toujours une priorité, et je pense que c'est fondamental dans notre système de santé, de lutter contre les maladies qui entraînent la mort. Est-ce que pour autant le fait d'avoir un enfant est un désir sociétal et non pas médical, même chez les hétérosexuels? Ce serait une question. La limite du médical et du sociétal n'est pas si claire, puisque là, il n'y a pas, au sens strict, une maladie qui entraîne la mort. Inversement, est-ce qu'il n'y a aucune souffrance qui appelle un soin dans le cas d'un couple non hétérosexuel qui veut avoir un enfant? Je n'en sais rien et je voudrais tenir compte de tous les aspects de la souffrance humaine. Mais le point important, à mon avis, c'est en effet de mettre en avant d'abord la lutte contre le négatif sous la forme de la maladie, mais aussi sous la forme de ce qui fait violence aux êtres humains. Il ne s'agit pas d'encourager telle ou telle pratique. Il s'agit de savoir au nom de quoi on devrait les interdire ou pas. Interdire, c'est quand il y a un négatif, quand il y a une violence.
Et le négatif, n'est-ce pas le droit des enfants à avoir un père, par exemple?
Le négatif, c'est de porter un tort à une relation à travers une technique bien précise. Interdire, par exemple, la GPA, enfin, en tout cas, recommander son interdiction, c'est dire cette technique-là porte atteinte à une relation. Est-ce que l'insémination artificielle porte atteinte à un corps humain, à un être humain en tant que tel? Je ne le pense pas. Le cadre familial n'est pas entraîné par la technique. Dans la GPA, oui, il y a une atteinte dans la technique elle-même, parce qu'on passe par la gestation par autrui, et pas seulement pour autrui.
Grégoire Pupink, quels sont vos derniers commentaires?
Oui, bon, les limites, effectivement, la bioéthique est là pour les poser, mais ce que je constate, c'est qu'elle recule.
Elle le fait.
Elle recule depuis, les limites reculent sans cesse, depuis les années 90.
Il y a des choses qui n'ont absolument pas bougé, qui ne bougeront pas.
Sur les questions de diagnostic prénatal, effectivement, ça bouge beaucoup. Et je le vois aussi dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg. Savoir si les désirs sont source de droit, oui, de fait. Dans la logique actuelle des droits de l'homme, dès lors qu'un désir entre dans le champ de la vie privée et reconnu comme tel par la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors, il constitue un droit.
Mais le désir de meurtre, Dès lors que
les juges estiment que ça rentre dans le champ de la vie privée, de l'intimité, c'est un droit. Et c'est alors à l'État de se justifier. Et c'est ça la réalité du droit aujourd'hui.
Non, c'est pas vrai. Le désir de meurtre, si j'ai envie d'insulter quelqu'un et d'appeler au meurtre d'une communauté, je n'ai pas le droit de le faire dans aucun pays démocratique.
Non, c'est un droit qui exige, qui appelle, qui oblige l'État à se justifier. L'État doit expliquer pourquoi il refuse. Et donc là, c'est effectivement, on voit cette dynamique, mais qui est propre au mécanisme même des droits de l'homme, de transformer le désir en droit et de mettre l'État en situation de devoir justifier l'interdiction. Donc ça, c'est un élément, effectivement, qui peut aussi expliquer cette tendance à l'accroissement des nouveaux droits.
Frédéric Vance, est-ce que vous avez un mot de conclusion ?
Non, ce que je pense, c'est qu'il ne faut surtout pas paniquer. Je pense que la critique de certains usages des droits, de certains qui disent « tous mes désirs sont des droits » et ce sont plutôt des enfants mal élevés, c'est pour ça que la société mûre, comme je le pense avec Winnicott, le grand psychanalyste, est une société qui pose des limites à nos désirs, effectivement, tout en donnant le cadre dans lequel certains désirs sont possibles. C'est ça la loi de la démocratie. Et dans le cadre de ces limites, en effet, il y a certains désirs qui sont légitimes. On ne va pas nous interdire non plus tous nos désirs, j'espère. Donc ne paniquons pas. Je pense que les vraies sociétés fortes sont des sociétés qui assument de construire des cadres communs, qui ne plaquent pas des a priori, mais qui ne sont pas non plus dans le laisser-aller et ne cédons pas sur les droits de l'homme au nom d'un supposé droit de l'hommisme.
Bien, merci beaucoup Frédéric Vance, merci Grégoire Pupink. Alors j'ajouterai très brièvement que pour moi, le suicide assisté ne répond pas à un désir de mort, car ce mot de désir sonne mal. Simplement, quand la médecine ne peut rien faire, peut-être que le souci d'autrui, c'est d'aider son prochain à mourir le moins douloureusement possible. Mais ce serait avec vous, Grégoire Pupink, l'occasion d'un tout autre débat. Je rappelle d'ores et déjà le titre de votre livre, Les droits de l'homme dénaturés. Il est publié aux éditions du CERF. Frédéric Worms, vous avez publié récemment Les maladies chroniques de la démocratie chez Desclés de Brouwer et Les droits de l'homme et philosophie, une anthologie aux éditions du CNRS. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Roman d'aujourd'hui. Mes invités seront Maria Pourchet et Nicolas Mathieu. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Pierre Monteil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.